Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
À Hong Kong, un projet du gouvernement a fait sortir dans la rue 1 million de manifestants dimanche dernier. Ils protestaient contre une proposition de loi d'extradition vers la Chine continentale qui pourrait mettre en péril l'autonomie juridique et financière du territoire. Le risque est que Pékin puisse réclamer l'extradition de toute personne en litige avec la Chine, notamment sur des questions d'affaires. Devant cette mobilisation, le gouvernement hongkongais a repoussé hier l'examen du texte, mais les dizaines de milliers de manifestants qui étaient encore présents réclament son abandon pur et simple, ce que l'exécutif semble bien loin d'accepter. Bonjour Sébastien Weig, vous êtes historien de la Chine et directeur d'études à l'EHESS. Que contient ce texte et aujourd'hui cette protestation est-elle centrée uniquement sur le refus de ce texte?
Bonjour. Non, effectivement, ce texte arrive en bout de fil d'une longue série de décisions du gouvernement hongkongais qui ont été perçues comme des érosions du statut d'autonomie de Hong Kong, donc notamment une interprétation de la loi fondamentale qui a permis de destituer des députés élus au Parlement, une occurrence où un journaliste s'est vu refuser la prolongation de son visa, et toute une série d'autres actes, bien sûr les grandes manifestations de 2014 pour davantage de démocratie dans l'élection du chef de l'exécutif. Donc il y a un sentiment à Hong Kong de perte du statut particulier d'une part auquel les Hongkongais sont attachés et qui d'autre part est garanti par les textes que la Chine a signés à l'approche de la rétrocession de 97.
Rappelez-nous ce qu'est Hong Kong pour la Chine, Sébastien Weig.
Donc Hong Kong, bien sûr, fait partie de ce récit du siècle d'humiliation perdu pendant la première guerre de l'opium en 1842. Donc la Chine, aussi bien sous les nationalistes que sous les communistes, en a fait un objet de désir pour la réunification du territoire national. Après 97, ce qui a été la formule qui a été trouvée est de faire de Hong Kong un territoire autonome à l'intérieur sous souveraineté chinoise. Et donc les garanties qui ont été données d'abord dans la déclaration conjointe sino-britannique de 1984, ensuite dans la loi fondamentale de Hong Kong, donc promulguée à Pékin en 1990, la formule décisive, c'est le haut degré d'autonomie. Donc c'est ça aujourd'hui, même plus qu'un pays de système, c'est cette formule-là qui est importante.
Et alors donnez-nous justement des exemples de cela, qu'est-ce que l'on peut faire à Hong Kong qu'on n'a pas le droit de faire dans le reste de la Chine? En quoi y a-t-il des distinctions dans les lois donc des deux territoires?
Donc, bon, il y a des choses très très banales et que tout le monde connaît. Donc, la devise, par exemple, donc qui est différente. C'est un territoire.
Quelle devise?
Le dollar de Hong Kong. Territoire douanier, fiscal distinct de la Chine. Les Hongkongais bénéficient d'une grande autonomie normalement dans tous les domaines sauf les affaires étrangères et la défense. Plus concrètement, Hong Kong a depuis, je dirais, plus d'un siècle été un territoire, une sorte de sphère publique offshore, un endroit où les activistes politiques, les intellectuels, les journalistes se sont établis quand ils étaient en délicatesse avec le pouvoir central, à commencer par Sun Yat-sen dans les premières années du XXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours été un endroit où on a publié des revues, on a publié des livres, on a discuté sur l'avenir de la Chine.
C'est-à-dire qu'on peut tout dire à Hong Kong en matière de critique, y compris du parti unique, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout le droit de faire dans le reste de la Chine. À Hong Kong, on peut le faire, Sébastien Weig.
Tout à fait, oui. Donc, il y a Hong Kong est un territoire qui n'a jamais été entièrement démocratisé, mais c'est un territoire où les libertés fondamentales sont absolument garanties. Et donc, ça, c'était la condition sine qua non pour que la rétrocession puisse avoir lieu dans des conditions à peu près acceptées par les Hongkongais.
Ce qui veut dire que c'est un drôle de mélange, parce que dans ce territoire, on a à la fois des intellectuels, des activistes politiques et également de grosses entreprises. C'est un territoire où les affaires sont omniprésentes.
Donc un des aspects de l'autonomie de Hong Kong, c'est son statut juridique. Donc Hong Kong ne tombe pas sous le système juridique chinois. Hong Kong pratique la common law, donc comme à l'époque britannique. Une des garanties un peu symboliques de la pérennité de l'autonomie judiciaire de Hong Kong, c'est que donc dans presque tous les cas, les jugements, les appels se passent à l'intérieur de Hong Kong. Il y a dans presque tous les cas, il n'y a pas de possibilité pour un procès d'aller à l'extérieur de Hong Kong. Donc, et les juges de la Cour suprême de Hong Kong, la CFA, la Court of Final Appeals, comprennent un certain nombre de juges non locaux. Donc des juges d'autres juridictions de common law, donc anglais, australiens, néo-zélandais. Et donc ça, c'est vu comme vraiment un signe de l'autonomie et qui permet effectivement à Hong Kong d'être un centre des affaires en Asie.
Et alors c'est ça en fait qui est particulièrement frappant, et c'est la raison pour laquelle cette affaire occupait la une, par exemple, du Financial Times aujourd'hui, parce que des multinationales, alors par exemple un grand cabinet d'audit Deloitte, a autorisé ses employés à travailler de chez eux pour la journée de mercredi. Le 6 juin, il y a eu 2000 avocats hongkongais qui ont manifesté, ce qui veut dire que le milieu des affaires, qui est très puissant à Hong Kong, est en faveur de la protestation.
Tout à fait, oui. Donc c'est vraiment ce qui différencie ces manifestations d'autres protestations contre le pouvoir de Pékin et notamment du mouvement pour la démocratie 2014, c'est que là, il y a vraiment un sentiment que le statut de Hong Kong comme centre des affaires est en péril et donc la prospérité de Hong Kong. Enfin, c'est quand même ça. Hong Kong n'est pas un territoire riche en ressources naturelles ou qui a d'autres ressources économiques à sa disposition. Donc les Hongkongais sont très attachés à ce statut qui leur a permis de faire fortune. Donc la communauté d'affaires, c'est vrai que l'Asie de façon générale devient de moins en moins démocratique ces dernières années, mais il y a d'autres territoires qui peuvent prétendre au statut de centre financier et commercial en Asie si Hong Kong ne garantit plus.
Mais c'est une protestation pour les affaires et ou les droits de l'homme ?
C'est les deux. Donc
c'est ça qui est singulier,
les libertés fondamentales et les libertés fondamentales qui sont vues comme ce qui a garanti la prospérité de Hong Kong. C'est ça l'originalité de ce territoire, c'est-à-dire que les libertés fondamentales font l'objet d'une identification forte de la population sur le plan du contenu, mais aussi sont vues comme une composante absolument indispensable de la prospérité de Hong Kong.
Alors la question la plus difficile pour la fin, Sébastien Weck, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a vu qu'il y avait eu des échauffourées lors de la dernière manifestation d'hier. Maintenant ?
Donc très difficile de dire si effectivement la communauté d'affaires, les milieux pro-Pékin peuvent arriver à atteindre l'oreille de la chef de l'exécutif et des responsables de Pékin à Hong Kong, peut-être qu'une solution peut encore être trouvée. Hier, dans le Financial Times, il y avait un article citait une source interne disant que c'était vraiment la chef de l'exécutif qui avait voulu ce projet de loi et non pas le gouvernement de Pékin. Donc si c'est le cas, c'est peut-être une possibilité de sortie, mais si les choses restent en l'état, l'issue la plus probable est quand même que la loi soit votée très rapidement et qu'il n'y ait pas de concession décisive.
Merci beaucoup Sébastien Weck. Je rappelle que vous avez publié un ouvrage consacré aux intellectuels chinois issus du peuple. Il est publié aux éditions de l'Université de Columbia.